Mon mari est avocat. La police l'a arrêté le 12 janvier 2020. Il est accusé d'incitation à renverser le régime. Je ne l'ai pas revu depuis.
Le premier point, c'est qu'évidemment, je suis innocent. Je n'ai fait que mon devoir d'homme de loi et de citoyen.
J'espère que tous ceux qui ont été accusés à tort lors des affaires que j'ai traitées pourront être blanchis.
Tu ne le sais pas?
Je pensais que c'était un simple avocat. Tu m'as dit qu'avant d'aller en prison, il te parlait parfois de certaines affaires. Ça, je m'en souviens.
Elle concernait des pétitionnaires, des gens qui avaient émis des plaintes auprès des autorités. Ils sont devenus la cible du gouvernement et ton père a voulu les défendre.
Pourquoi le gouvernement fait ça?
Eh bien, en fait, les pétitionnaires avaient interpellé les autorités parce que leur maison avait été détruite, du jour au lendemain.
Pour le gouvernement, un avocat, c'est un peu un obstacle.
Oui. Et il me demande quelle serait la vie de son père, comment il réagirait. Il commence à se poser ce genre de questions. Son père lui manque, j'ai l'impression.
Chang Wei-pin est un ami. On s'est connu en 2018 suite à ma participation au mouvement MeToo. Dans le cadre de ce mouvement, on dénonçait des cas de harcèlement sexuel perpétrés par des personnes très influentes, issues des cercles de pouvoir et du milieu universitaire. Certains d'entre eux m'ont poursuivi pour diffamation. Chang Wei-pin a été le premier avocat à me contacter. Il a proposé de me défendre, de plaider non coupable, et tout cela gratuitement. Il a été lui-même poursuivi, j'ai voulu lui venir en aide, et j'ai écrit un article approfondi sur sa situation. Début décembre 2019, Chang Wei-pin et une dizaine d'amis, tous avocats, ont participé à une réunion à Xiamen. Ils ont discuté de l'actualité politique, de l'avenir de la Chine, des impasses du métier d'avocat et de la problématique de la citoyenneté. L'un après l'autre, tous les participants à cette réunion ont été arrêtés. Chang Wei-pin a été placé en résidence surveillée pendant 10 jours. Puis il a été assigné à résidence dans sa maison natale de Fengxiang, dans le Shanxi. Pendant les 10 mois précédant son jugement, alors qu'il avait été libéré sous caution, il a tenu un journal vidéo. Le 16 octobre 2020, dans son journal vidéo, il révèle les tortures qu'il a subies lorsqu'il était en résidence surveillée.
On m'a infligé la torture du banc du tigre dans une chambre de l'hôtel Pao Tai. 24 heures par jour pendant 10 jours. C'est une torture particulièrement cruelle. Encore maintenant, je n'ai plus la moindre sensation à l'index et à l'auriculaire de la main droite.
2 jours après, ils l'ont à nouveau arrêté pour le motif d'incitation à la subversion. Quand un pays ne peut pas tolérer des personnes comme lui, ça pose un vrai problème.
Voici les lunettes à réalité augmentée de LL Vision. Grâce à ces lunettes, lorsque les flux humains sont denses, vous identifiez rapidement les personnes suspectées de délit.
Et en plaçant des caméras de reconnaissance faciale à la montée et à la descente des bus, on aide la police à se déployer et contrôler les réfugiés ou les individus sur liste noire.
Quand un employé est stressé à cause d'un conflit familial, par exemple, l'expression de son visage va être tendue. Cela peut avoir un impact sur le bon déroulement du travail. Notre système de reconnaissance faciale le détectera et le supérieur hiérarchique pourra être averti à temps.
Les policiers peuvent aussi répandre des rumeurs auprès des voisins, nous accuser de trahir le pays. Ça leur permet de nous isoler. Une fois, on a organisé une réunion familiale et on a mangé tous ensemble. Ma grande sœur a filmé avec son téléphone et a posté la vidéo sur Internet. Peu de temps après, TikTok lui a signalé un contenu illégal et a fermé son compte. J'ai voulu faire une expérience pour savoir si mon visage faisait l'objet de restrictions. J'ai donc créé un compte, j'ai fait quelques vidéos que je suis parvenue à poster. Toutes celles où mon visage apparaissait ont été signalées comme illégales et le compte a été fermé. Je ne peux plus l'utiliser.
Quand ils m'ont libéré, les premiers temps, je ne ressentais pas tellement ces restrictions. Mais c'est parce que je venais de sortir de prison. Nous avons été incarcérés parce que nous nous sommes mis au service de personnes dont les droits avaient été bafoués. Nous voulions obtenir la reconnaissance de leurs droits. Dans l'affaire du 9 juillet, environ 300 avocats ont été enlevés en vue d'être interrogés, puis placés en détention. On leur a retiré temporairement leur liberté. Certains ont dû rédiger des confessions, d'autres ont été incarcérés. Au bout du compte, ce sont 27 individus qui ont été inquiétés. Parmi eux, quelques-uns seulement ont eu droit à un procès. À la télévision, les avocats n'avaient pas d'autre choix que de reconnaître leurs crimes. Mais moi, j'ai refusé. Alors, ils m'ont maintenu en détention arbitrairement. C'est à cause du 20e congrès du Parti communiste que vous me traquez comme ça?
Je vous ai déjà expliqué tout ça clairement. J'étais bien disposé à votre égard, alors que vous savez pertinemment ce que vous faites. Des journalistes japonais ont même tourné un documentaire sur vous. On a aussi plein d'autres informations. Il faut vous comporter correctement. Je demande juste de vous enregistrer. Où est le problème?
Je vais sortir, là.
Quand vous êtes rentré, avez-vous signé le registre?
J'ai scanné le code.
Vos invités se sont enregistrés?
Le gouvernement se sert du big data pour surveiller les citoyens. Chaque quartier est divisé en secteurs, et un responsable est assigné à chaque secteur. Il est chargé de noter tout ce qui se passe dans sa zone.
Les surveillants s'occupent des différents problèmes que peuvent rencontrer les habitants de leur secteur. Chaque surveillant est responsable de 400 foyers, soit plus de 1000 habitants. Attention, une voiture! Où allez-vous?
Je vais vider ma poubelle. Les poubelles de tri sont un peu loin pour moi.
Ils ont certaines personnes un peu plus étroitement, du fait de leurs activités. Ils sont susceptibles de critiquer ou de s'opposer au gouvernement. Donc nous observons plus attentivement leurs faits et gestes. Chaque jour, nous enregistrons leurs activités, les visites qu'ils reçoivent, et ensuite, nous transmettons notre rapport à nos supérieurs. Ainsi, ils connaissent en temps réel les agissements de la personne. Pour vérifier quotidiennement ce qu'ils font à chaque instant, nous aurions besoin de davantage de personnel. C'est une grande pression psychologique pour nous. Mais avec le progrès de la technologie, la reconnaissance faciale devient de plus en plus performante. Nos tâches s'en trouvent considérablement simplifiées.
La semaine dernière, ils m'ont dit qu'ils avaient lu un article. Ils estimaient que je devais en être l'auteur car ils disaient reconnaître mon style. Je pense qu'ils analysent les comportements des gens, leurs gestuels, leurs tics de langage. En 2019, j'ai participé au mouvement contestataire de Hong Kong contre l'extradition des opposants en Chine. J'ai écrit un article sur ce sujet. Suite à cet article, j'ai été arrêtée pour être interrogée. Ils ont alors scanné mon iris, pris mon empreinte vocale, mes empreintes digitales et l'empreinte de ma paume. Et même si je porte un masque, ils sont capables de me reconnaître grâce à mon iris ou à ma voix. L'année dernière, j'ai parlé dans un lieu public. À partir de l'enregistrement de ma voix, ils ont pu savoir que c'était moi qui m'exprimais.
Ce serait terrible si Chiang Wei-pin était condamné pour incitation à renverser le régime. Nous ne sommes en aucun cas violents. Dans des pays comme les États-Unis, toute personne qui incite au renversement du pouvoir est punie par la loi. Mais ici, en Chine, la loi ne définit pas ce crime de manière claire. C'est la police qui définit ce qu'est une action subversive.
Je vais donc déposer des requêtes auprès des autorités de Pékin. Est-ce que cela pose un problème ?
D'un point de vue légal, ça ne pose aucun problème. En revanche, on ne peut pas être sûr que ta sécurité ne sera pas menacée.
Les autorités n'ont pas de limites. Elles n'ont vraiment peur de rien. Elles peuvent très bien me ramener chez moi et m'enfermer. Mais je voudrais quand même essayer. Comment savoir ce que ça va donner si je ne tente rien ?
En 2015, quand son père a été arrêté, notre fils n'avait que 2 ans et 7 mois. Avant 2015, j'étais femme au foyer. J'étais, comme on dit, une femme qui accompagne son mari et éduque son enfant. La vie était simple, simple et heureuse. Mais en 2015, quand mon mari a subitement disparu, qu'il a été arrêté, j'ai eu l'impression que tout était fini, que tout s'écroulait. J'étais complètement perdue. Je me suis rapprochée des familles qui avaient subi le même sort.
Dans le lieu de détention où j'étais, on était maintenu au secret. Il fallait demander l'autorisation pour tout. Et il y avait une expression qui revenait tout le temps. C'était « au rapport ».« Au rapport, je voudrais boire ». Au rapport, je voudrais uriner. Au rapport, je voudrais lever les bras. Au rapport, je voudrais cligner des yeux. Au rapport, je voudrais manger. Il fallait toujours commencer une demande par « au rapport ». Sans cela, on te l'interdisait. C'est ce qu'on peut appeler la suppression totale de la liberté individuelle. Les pires moments, c'était ceux où je n'étais pas autorisé à me retourner pendant mon sommeil. Vous imaginez? On reste allongé sur le lit comme un cadavre. Au moindre mouvement qu'on esquisse sur le côté, on nous rappelle à l'ordre avec violence.
Je suis très inquiète. Notre avenir est sombre. Ceux qui osent relever la tête sont les premières victimes.
Si personne ne se dresse contre eux, ils ne prendront jamais ces affaires au sérieux. C'est vrai que c'est très risqué, mais il faut le faire quand même.
Quand ils ont mis ton logement sous surveillance, ils s'en sont pris à toi ?
Physiquement, non. Mais sur le plan mental, c'était un calvaire.
Ils t'empêchaient de dormir ?
Ils ont essayé. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ils me poussaient à boire.
De l'alcool ?
Ils voulaient m'enivrer. Ils savaient que j'aimais le vin rouge. Ils m'apportaient sans arrêt des bouteilles. Ils voulaient me saouler pour me convaincre de ne pas voir d'avocat, ou du moins d'en prendre un autre. Je leur ai dit qu'il n'en était pas question, que je ne dévirais pas de ma ligne. J'ai même réussi à les faire parler. Ils ont admis qu'auparavant, ils avaient des méthodes brutales, mais maintenant, me disaient-ils, elles étaient plus subtiles. Ils passaient leur temps à fouiller dans leur base de données pour étudier l'angle sous lequel nous attaquer.
Assad nous ont invités à participer aux activités de la Journée des droits humains. Ces policiers veulent nous empêcher d'y aller. Mais ils n'ont aucun motif légal pour le faire.
Notre liberté physique. Ils le font tellement souvent que c'est devenu presque normal pour eux. Mais ça ne doit pas le devenir. Chaque fois qu'ils viennent, je me sens opprimée. Je me sens mal.
Aucun d'entre nous n'a envie de faire l'autruche et de continuer sa petite vie confortable.